France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Aider l'Ukraine sur la durée, c'est l'appel d'Emmanuel Macron aux industriels de l'armement. Le chef de l'État qui continue à évoquer le concept d'économie de guerre. Y va-t-on ou pas? On posera la question à l'expert des informés, le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant de l'OTAN, à la transformation des capacités militaires. Au menu également des informés, 89% des Européens veulent que la transition énergétique progresse, mais, il y a un mais, 45% veulent le faire prudemment. On décryptera cette étude de l'Institut CSA pour Engie et la Fondation Jean Jaurès, qui a été menée dans 10 pays européens, avec des craintes sur l'emploi, sur la croissance et la compétitivité des entreprises, où l'on découvre que les Français apparaissent comme les plus informés, les plus volontaires et les plus actifs sur cette transition, mais aussi les plus inquiets sur ce que ça coûte. Et puis, connaissez-vous l'effet Édredon? On parlera de cette dose de proportionnelle que souhaite introduire Yael Braun-Pivet pour les prochaines législatives. Une dose seulement pour limiter la progression des extrêmes. On est avec François Miguet, grand reporter au service économie du Point, Stéphane Zumsteck, directeur du département opinion et politique d'Ipsos, et Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste à Paris pour le média britannique Télégraphe. Bonsoir et bienvenue à tous. Alors, faut-il parler d'économie de guerre, d'effort de guerre? On va se poser la question du vocabulaire qui est importante, alors qu'Emmanuel Macron a passé une partie de la journée à Bergerac, en Dordogne, pour lancer une usine de poudre à canon. 1200 tonnes seront produites dès l'an prochain, 10 fois plus que la production actuelle. C'est sur le site de Reinco. On va en parler. Le chef de l'État qui appelle à un effort durable des industriels de l'armement et qui ferme, vous allez entendre, l'hypothèse d'une augmentation des impôts.
Nous, on a une stratégie claire. Baisser les impôts pour relocaliser, être le pays le plus attractif en Europe. Nous le sommes depuis 4 ans. Réindustrialiser, ce que nous sommes en train de faire. On recrée de l'emploi industriel. Créer de l'emploi, on en a créé plus de 2 millions et baisser de 2 points le chômage. Et donc, faire avancer le pays. Donc oui, l'investissement dans notre industrie, France 2030, dans l'innovation, l'investissement aussi dans notre recherche, notre innovation, l'investissement dans notre défense crée de l'emploi. Et donc ce faisant nous permet de baisser les dépenses sociales qui accompagnent et permet de créer de la richesse pour tout le pays.
Voilà, il y a évidemment de la politique dans tout ça. Un Bruno Le Maire qu'on a aperçu, pour ceux qui nous suivent, à l'image, juste derrière Emmanuel Macron. Mais on va se concentrer d'abord sur la partie défense de tout ça, si vous le voulez bien. Bonsoir Général Jean-Paul Paloméros.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être notre expert sur ce dossier. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant de l'OTAN à la transformation des capacités militaires. Ça n'arrive pas un peu tard pour l'Ukraine, cette hausse de la production de poudre? Et est-ce que c'est pour l'Ukraine ou pour la France et sa souveraineté?
Écoutez, j'allais dire les deux. Alors pour répondre à votre question, bien sûr, depuis le début de cette guerre, qui est un scénario quand même très original, difficile à prévoir. Les pays occidentaux, d'une manière générale, ont un retard par rapport aux besoins de l'Ukraine, aux besoins de sa stratégie. Mais là, ça fait quand même, il faut le reconnaître, plusieurs mois, y compris sur vos antennes, qu'on annonçait quand même cette chronique d'un déficit de munitions, de munitions solaires. Et il faut qu'on soit poussés les uns et les autres. Hein. C'est vrai dans tous les pays. Par l'urgence pour se rendre compte qu'il y a un effort considérable à faire si on veut tenir notre engagement vis-à-vis de l'Ukraine.
C'est vrai, mais simplement les chiffres, on pourrait en citer beaucoup. La Russie a fabriqué en 2023 pratiquement 2 millions d'obus, la France 30 000. Et on pourrait multiplier les exemples. C'est en ce sens hein, que la question se pose. Et alors, on va écouter parmi les nombreuses voix qui s'inquiètent de ce retard et pour qui tout ça est insuffisant par rapport aux besoins. On va écouter Cédric Perrin, le sénateur LR du territoire de Belfort, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. On est loin, loin de l'économie de guerre, dit-il.
Les augmentations qui sont dans les tuyaux resteront évidemment insuffisantes par rapport aux besoins. Je rappelle quand même que la Russie a fabriqué 1,9 million d'obus de 120 et de 152 en 2023 et que la France, elle, en a produit 30 000. et que finalement, derrière tout ça, le vrai sujet, c'est celui de l'argent. Parce que l'économie de guerre, dans l'histoire, c'est quand même quand on consacre à son économie au moins plus de 8% du PIB à la défense. Aujourd'hui, les Russes y consacrent 6%, nous sommes à 2%, et donc, moi, je me bats pour dire depuis un certain temps que nous ne sommes pas en économie de guerre, compte tenu de ce que nous faisons aujourd'hui pour y être.
Général Palomeros, vous aussi, cette expression d'économie de guerre, elle vous chagrine? On y va ou on n'y va pas?
Moi, je suis d'accord avec le sénateur Perrin. On n'est pas en économie de guerre, ça fait bien longtemps qu'on n'y est plus. La dernière fois qu'on a été en économie de guerre, quand on y réfléchit bien, c'est quand la 4e République, plus le général de Gaulle, ont décidé que notre pays devait accéder à la dissuasion nucléaire. Là, à l'époque, on devait être à peu près à 5% de notre produit intérieur brut, en pleine croissance.
On considère que c'est 8, est-ce que c'est exact, 8% du PIB, techniquement?
Bien pire, on peut débattre, mais... On va pas se battre pour les pourcentages, mais ça serait déjà énorme si on atteignait ce chiffre-là. Sachant qu'il ne suffit pas de mettre de l'argent. Il faut reconstruire toute la chaîne de production, comme l'a vu le président à Bergerac aujourd'hui. Et ça prend du temps. Il faut trouver les composants, et ça devient de plus en plus difficile. Il est clair que M. Poutine, il a un temps d'avance, puisqu'il a monté vraiment, lui, son économie de guerre, au détriment d'autres priorités pour sa population. Une économie de guerre, ça veut dire des choix, ça veut dire qu'on reconvertit éventuellement de l'industrie civile vers le militaire, ça veut dire qu'on fait des choix d'approvisionnement au profit du militaire, ça impacte directement la vie. Ouais, pour l'instant, c'est pas le cas.
Stéphane Zunzeg, ce terme d'économie de guerre qu'Emmanuel Macron répète à l'envi, alors que bon, la plupart des spécialistes, que ce soit côté économie ou côté défense, disent qu'on n'y est pas. C'est étrange, cette façon quand même de maintenir.
Oui, c'est évidemment un terme utilisé de façon un peu abusive. C'est pas ça, l'économie de guerre, évidemment. Le général vient de le dire. Enfin, on a l'impression qu'on est en pleine Première Guerre mondiale et qu'on doit tenir pendant 4 ans. Bon, c'est évidemment.
L'économie de guerre, c'est clairement, on sort de l'économie de marché, c'est l'État qui passe.
Bien sûr, avec des réquisitions, et voilà, et on n'en est pas là.
Les fabricants de lave-linge font des tanks.
Malgré tout, on retrouve tous les ingrédients, d'un Emmanuel Macron qui essaye à nouveau de dramatiser la crise ukrainienne, en tout cas de s'en servir. Alors, pour deux raisons, enfin, pour plusieurs raisons. D'abord, pour apparaître comme une sorte de leader de l'Europe en pointe dans le soutien à l'Ukraine, et sur le front intérieur, pour remettre au cœur aussi des préoccupations la réindustrialisation dans ce contexte économique qui est dégradé, avec les chiffres du chômage. On parlera sans doute du pouvoir d'achat et de l'inflation plus tard, mais en tout cas, des chiffres du chômage qui remontent, et pour dire, ben voilà, la dépense publique et le réarmement quelque part militaire de la France, ça sert à ça. Je suis pas persuadé.
Dramatisation,
toujours, et aussi dans un but électoral, évidemment, pour qu'on ne parle, et on parle pas que de ça, mais qu'on parle essentiellement de ce sujet, en essayant de rejouer finalement la même tactique qu'il y a 5 ans qu'il y a 2 ans lors de l'élection présidentielle. Je ne suis pas sûr que ça marche cette année, d'autant plus qu'il y a quand même quelque chose de totalement paradoxal et qui contribue à mon avis à brouiller le message du président de la République. C'est que très bien, on va produire plus on ouvre une usine de poudre, on va produire plus d'obus pour aider l'Ukraine, pour se réarmer soi-même et pour renouveler les stocks de l'armée française, mais à quel coût, alors même que ça fait des semaines et des semaines que quelque part les Français sont matraqués par une actualité qui ne parle que des déficits publics. Donc là encore, je ne suis pas sûr que cette visite et que ces déclarations suscitent un certain enthousiasme auprès de l'opinion publique.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En grande conversation, les informés sur la notion d'économie de guerre. François Miguet est là pour Le Point, Stéphane Zunzeg pour Ipsos, Anne-Elisabeth Moutet pour Télégraphe, et avec nous le général Jean-Paul Palomeros. Économie de guerre ou pas, François Miguet? On a le sentiment quand même qu'on tourne autour de cette notion, que le président de la République la remet sur le tapis. Votre regard à vous.
Oui, alors on comprend qu'Emmanuel Macron veut faire de la communication, marquer les esprits avec ce terme qui est très puissant d'économie de guerre, mais il faut bien se rendre compte que monter à 2% la part de la richesse nationale par an, la part de l'investissement dans l'armement, finalement, c'est nous mettre, je parle sous le contrôle du général Palomeros, au niveau des préconisations de l'OTAN, en vérité. La Russie est en économie de guerre aujourd'hui, bien sûr. Elle investit une part de son PIB qui est très conséquente. Elle est en quasi-autarcie. Elle a réorienté un certain nombre de ses industries vers l'armement. Elle est en guerre, donc elle est en économie de guerre, ça c'est clair. La France n'est pas en économie de guerre, d'abord et surtout parce que la France n'est pas en guerre. En revanche, elle augmente la part de sa richesse qu'elle consacre à l'industrie de l'armement.
Les Russes, vous diriez, général Palomeros, qu'ils sont en économie de guerre? Il ne semble pas qu'on soit non plus à ce stade.
En fait, ils le sont depuis déjà un certain temps. Ce dont on ne s'est pas rendu compte, on n'a pas voulu se rendre compte essentiellement en Europe, c'est que les grandes puissances, les États-Unis, la Chine qui investit énormément, et la Russie, si vous voulez, ils ont pris leur élan depuis bien longtemps parce que, je ne sais pas, ils ont décidé que ce siècle serait le siècle des confrontations et la Russie s'y est préparée. Maintenant, elle a accentué ces dernières années son effort. Mais la Russie était prête et sa machine productive était prête.
Une économie de guerre, juste pour bien, encore une fois, comprendre. Si on prend les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est plus de 30-35% de leur PIB qui est consacré aux dépenses militaires.
Quand l'urgence se prête, évidemment, à partir du moment où les Américains sont rentrés dans la Deuxième Guerre mondiale avec un certain retard et on sait dans quelles conditions, il fallait produire, comme disait le général de Gaulle, d'immenses forces n'avaient pas encore donné et pensaient essentiellement à la force productive des États-Unis. Et aujourd'hui, les seuls qui puissent répondre vraiment aux besoins ukrainiens dans le court terme, même si l'Europe fait des efforts, ce sont les États-Unis, parce qu'ils ont une industrie qui, elle est peut-être pas sur le pied de guerre ou en économie de guerre, mais enfin, elle est productive parce qu'ils exportent beaucoup.
Bon, les Américains qui, pour l'heure en tout cas, on le sait, ont bloqué leur aide. Ça se passe au Congrès avec des considérations politiques qu'on a souvent décrites. Mais Anne-Elisabeth Moutet, votre regard, vous, là-dessus?
Oui, en France, on n'est pas en économie de guerre. Je rappelle que, par exemple, quand il a été question, parce qu'ils en avaient besoin à ce moment-là de la guerre, d'envoyer des chars en Ukraine, on avait un excellent char qui correspondait tout à fait aux besoins qu'ils avaient sur le terrain. Le Leclerc manque de bol, on a cessé de le produire il y a plus de 10 ans. Alors, il y a eu des choix qui ont été faits. Toute notre idée, c'était une guerre hybride, c'est une guerre asymétrique. C'est ce qu'on faisait au Mali jusqu'à une date récente. Et puis, on s'est retrouvé avec une guerre absolument conventionnelle sur d'ailleurs les territoires européens où avait eu lieu le même genre de guerre 70 ans plus tôt. Sur les États-Unis, alors les États-Unis, théoriquement, ils ont complètement cessé pour le moment, ils ont arrêté les packages d'envoi d'armes à l'Ukraine et il y a une bataille qui se passe non seulement au Congrès mais même au sein du Parti républicain, le Parti démocrate dans l'ensemble étant favorable à armer l'Ukraine. Parce qu'au sein du Parti républicain, vous avez tout de même des gens qui poussent contre ça, il faut très peu de sénateurs pour bloquer le projet. Cela dit, on constate, c'est assez amusant, il y a peu de temps que l'état de pénurie est tel que les Ukrainiens ont des gens qui vont même dans des endroits où il y a des champs de mines pour ramasser des obus russes et les donner. Et on annonce qu'on a réussi à réunir comme ça 1 million d'obus. C'est pas un type ramassant tout seul des obus dans les champs, même minés ou surtout minés, qui est allé chercher brusquement et trouver 1 million d'obus. Et ça va passer par l'Estonie et je suis absolument persuadée que ça vient des États-Unis et que ça vient discrètement des États-Unis. Puisque la discussion a encore lieu au Congrès. Il y a toute une partie, je dirais, des gens qui sont actifs dans le milieu de construction militaro-industrielle américain qui n'ont jamais cessé de faire des projets pour armer l'Ukraine et de trouver des moyens, un petit peu d'ailleurs comme Roosevelt avant l'entrée en guerre des États-Unis en 1941, on avait trouvé toutes sortes de moyens pour malgré tout envoyer des armes aux Européens dans leur guerre contre Hitler. Donc je pense que ça n'a jamais complètement arrêté, ça n'est absolument pas assez. L'argument d'un certain nombre d'Américains, ça consiste à dire écoutez, ce que l'Ukraine nous demande, c'est 5% de notre budget militaire et c'est 5% de notre budget militaire pour essentiellement servir contre les gens pour lesquels on a fabriqué ces armes. Parce que ces armes sont vraiment spécifiques. C'est pas des armes qu'on va utiliser contre la Chine, c'est pas des armes évidemment qu'on va aller utiliser contre les malheureux migrants au Mexique. Donc ce sont des armes qui sont faites pour tous les plans de guerre, c'est contre la Russie. Et le travail est fait par des gens qui ne vous demandent pas d'aller envoyer des gosses américains faire ça. Donc c'est tout bénéfice. Et c'est quelque chose qui va finir par passer dans le dialogue américain. Donc je suis plus optimiste, quel que soit le vainqueur des élections américaines, sur le fait que l'Amérique ne va pas lâcher.
Si on vient ici en France... Oui, François Miguet.
Pardon, je voulais juste dire que pour que nos auditeurs comprennent bien, il faut mettre les chiffres en perspective. Il faut se rappeler que la France donc, va consacrer maintenant 2% de son PIB chaque année à cet effort de réarmement. Mais si on regarde les États-Unis, qui sont bien plus riches, hein, ils consacrent chaque année 3,5% de leur PIB. Et il y a un certain nombre d'autres pays européens, évidemment plus proches de la Russie, comme la Pologne ou l'Estonie, qui sont à plus de 3% du PIB consacré à la défense chaque année. Donc on est juste en train de revenir un petit peu dans les clous. On s'est réveillé un beau matin, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de munitions, qu'on n'avait pas assez de poudre pour se défendre soi-même, avant même d'aider l'Ukraine. Et on est en train de sortir de la torpeur dans un monde où, depuis les années 80, on a détruit aussi 2 millions d'emplois industriels dans le pays. Hein, l'industrie pèse plus que 10% du PIB français, quand en Allemagne, on est de mémoire à 16 ou 17%. Donc, c'est pas du tout une économie de guerre. Hein, c'est un réveil, c'est un sursaut français, le début du démarrage d'un sursaut français.
Général Palomeros, quand le président de la République parle d'un effort durable des industriels de l'armement, ça s'adresse aussi, enfin c'est aussi un levier de croissance. L'intérêt économique de tout ça compte dans ces propos-là, au-delà du contexte ukrainien, qui est finalement un révélateur en fait sur l'état de l'industrie de l'armement française.
Vous savez, pour construire une défense robuste, d'abord, il faut investir dans le temps. Il ne faut pas, alors que ce qui s'est passé depuis la fin de la guerre froide, c'est qu'on a désinvesti, ça a été souligné. Donc, cet effort, il est nécessaire pour que notre défense puisse tenir son rang au niveau de nos ambitions. Hein, c'est bien ça qui importe. Et c'est vrai que l'industrie de défense, vue par exemple des États-Unis, c'est productif. 800 milliards d'euros à peu près. 42, 43 en France, pour donner une comparaison non pas en pourcentage, mais en brut. Et ces 800 milliards d'euros, ils bénéficient directement à l'innovation, à la recherche. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties de là, des cartons des agences de recherche pour la défense, comme la création d'Internet, le New Space, et bien d'autres inventions, bien d'autres inventions de cette nature. Donc oui, l'économie de défense peut être productive, mais il faut que ça s'installe dans le long terme. Et puis, il faut trouver aussi les outils qui vont permettre, les ingrédients qui vont permettre à cette industrie de défense de fournir. Vous voyez la difficulté qu'on a pour construire, pour fabriquer de la poudre aujourd'hui. Il faut aller demander à Pierre, Paul et Jacques à peu près partout dans le monde pour arriver à construire quelques centaines de tonnes de poudre. C'est ça la globalisation oui. aussi. La mondialisation, elle a eu cet effet-là aussi sur les outils de défense.
Et en tout cas, c'est acter l'existence d'un besoin, d'un risque durable. Parce que c'est aussi ça, lancer cette industrie de défense, comme vous le dites très bien, c'est du long terme. Mais c'est aussi acter l'état du monde.
Mais ce besoin durable, on l'a affiché depuis des lois de programmation à des lois de programmation. Simplement, on n'a pas mis le geste à la hauteur de ce qu'on affichait. Vous prenez les différents livres blancs et lois de programmation depuis pratiquement la fin de la guerre froide, on avait des ambitions extraordinaires, sauf qu'on n'a jamais, tenu ce cap pour différentes raisons, parce qu'on n'y croyait pas, tout simplement, je crois. On ne croyait pas aux besoins. Bon, ben on est rappelé à nos devoirs par l'histoire. Voilà, il faut accepter ce fait, mais dans l'immédiat, ça demande des efforts, et c'est vrai que il faut voir si la France, nos concitoyens sont prêts à les accepter oui. avant que ça ne produise.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On est ce soir en compagnie d'Anne-Elisabeth Moutet du Télégraphe, Stéphane Zumsteck d'Ipsos, François Miguet du Point. On parle de cette économie de guerre, on l'a bien compris, de l'appel d'Emmanuel Macron aux industriels de l'armement. Et puis cette sortie qu'il fait, et qu'il profite de ce déplacement avec plusieurs ministres, Sébastien Lecornu, Bruno Le Maire, avec lequel on sait qu'il n'est pas forcément totalement en face, pour fermer définitivement, comme il dit, l'hypothèse de la hausse des impôts. Il y a évidemment un lien dans tout ça, mais c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qu'il fait là aujourd'hui Emmanuel Macron, François Miguet.
Oula, bah, y a beaucoup de sujets qui sont mélangés, en effet, mais c'est souvent le cas avec Emmanuel Macron. Évidemment, cette sortie, d'abord, le premier message, c'est de dire ça y est, la France réinvestit dans la poudre à canon, mais on peut le lier à d'autres messages aujourd'hui du gouvernement qui sont, toujours sur le même sujet de la souveraineté, donc les investissements dans les médicaments, les investissements dans l'énergie, la réindustrialisation qui a commencé à se mettre en marche dans le pays. Et puis oui, il en a profité pour adresser ce message sur le débat du moment, hein, qui est quelle réponse donner aux graves problèmes budgétaires du pays. Les finances publiques de la France sont très dégradées. Ça fait d'ailleurs des mois que Emmanuel Macron le sait. Il est bien placé pour le savoir. Les notes à Bercy et à l'Élysée circulaient déjà il y a 6 mois.
Et encore pas plus tard qu'il y a une demi-heure, la Banque de France confirme qu'elle s'attend à 0,2% de croissance au premier trimestre.
Voilà. Et donc, il faut évidemment prendre un certain nombre de mesures. Et bien sûr, parmi les mesures potentielles, il y a toujours la tentation de la facilité. Hein, parce que dans un pays où la pression fiscale est déjà à 46% de la richesse, c'est-à-dire champion de tous les pays de l'OCDE, champion d'Europe, hein, on a passé devant le Danemark, augmenter les impôts, c'est quand même un peu compliqué. Mais en tout cas, c'était une des voies. Donc Emmanuel Macron a voulu dire aujourd'hui qu'il n'allait pas emprunter cette voie-là. Ceci dit, il n'a pas non plus donné exactement le modus operandi de ce qu'il comptait faire pour trouver les 10 milliards qu'il va falloir trouver, puisqu'il a parlé d'un plan équivalent, si j'ai bien compris, à ce qui avait été déjà fait, donc le coup de rabot là de 10 milliards. Et puis, c'était un message aussi politique, évidemment, c'était de dire... Je suis aligné avec mon ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui était justement derrière lui pour les caméras. Donc oui, un triple message.
Stéphane Zumsek, Emmanuel Macron, il sait où il avance quand il annonce tout ça. Et notamment, je ne sais pas ce que vous avez, vous, chez Ipsos, comme étude sur le soutien, où est-ce qu'on en est du soutien à la fois à l'Ukraine, mais à un investissement lourd en matière de défense.
En ce qui concerne le soutien à l'égard de la cause ukrainienne, il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est qu'à aucun moment, les Français n'ont lâché l'Ukraine en termes de bienveillance, de compatibilité. L'Ukraine est l'agressée, il faut aider l'Ukraine, il faut que l'Ukraine gagne la guerre, il faut que Poutine la perde. Ça, c'est très très clair. En revanche, ce que l'on constate dans les différentes enquêtes d'opinion et la façon dont les choses évoluent mois après mois, c'est que le soutien financier, les efforts à faire, là, pour le coup, les Français sont moins catégoriques qu'au début. Avant, il y avait une majorité très clairement qui disait, bien sûr, que la France doit prendre sa part et doit aider financièrement, doit aider militairement, doit accueillir des réfugiés. Et ça, c'était très clair au début. Et la France faisait partie des pays européens qui étaient assez en pointe, au-delà des pays de la ligne de front, des pays d'Europe de l'Est, qui sont encore plus concernés et, évidemment, logiquement, beaucoup plus inquiets que les pays de l'Europe occidentale. Mais ça, on le voit bien aujourd'hui. Ce soutien à l'Ukraine se fracasse contre les préoccupations nationales, des préoccupations domestiques. On voit bien qu'avec les déficits publics, on voit bien qu'avec le pouvoir d'achat, avec les salaires qui n'augmentent pas, contrairement à ce qu'ont pu dire à un certain moment les représentants du patronat, eh bien les Français se disent finalement à quoi ça sert de continuer de payer pour une guerre où le front ne bouge quasiment pas. On est rentré dans une guerre d'usure, il y a eu l'échec de la contre-attaque ukrainienne.
Même à 1500 kilomètres,
ça commence à coûter trop cher. Les gens ne sont pas en train de se retourner, mais quelque part, de plus en plus, on voit bien ce... distille dans l'esprit des Français l'idée selon laquelle une solution militaire n'est pas possible. Ce sera probablement une solution diplomatique. Dans ce cas-là, pourquoi continuer à payer très très cher pour fournir des armes à l'Ukraine? Il n'y a pas de renversement, mais ce que je veux dire, c'est que les Français favorables à la poursuite de l'effort financier et militaire en faveur de l'Ukraine ont a légèrement baissé ces dernières semaines.
La cohérence de tout ça, vous la voyez où, vous, Anne-Elisabeth Moutet ?
La première chose que j'aimerais dire, c'est que vous savez qu'il y a deux chiffrages du montant de l'aide française à l'Ukraine. L'un a été fait par les fabricants et le gouvernement, et ça consiste à dire on a envoyé environ 2 milliards d'euros pour l'Ukraine. Et l'autre consiste à dire, oui, mais ça c'est compté quand vous comptez le coût de remplacement de matériel français probablement assez âgé, et que si on ne compte que ce qui coûte vraiment, c'est-à-dire des vieux trucs qu'on va remplacer, et ça frappe marché l'industrie par des trucs plus neufs, plus beaux et plus chers, c'est 700 millions seulement. Alors c'est un calcul qui a été fait par l'Institut Kiel en Allemagne, évidemment l'Allemagne qui n'envoie pas les armements stratégiques à l'Ukraine dont elle a besoin, en particulier les canons longue distance Taurus en ce moment, ce qui est un vrai problème politique, même entre la France et l'Allemagne. Elle, en revanche, elle a envoyé 17 milliards de matériel en Ukraine. Donc, en France, nous, on est très en arrière sur ce qu'on a envoyé. On a envoyé nos fonds de tiroir, littéralement. Et je ne crois pas que les gens en soient parfaitement conscients. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit de savoir si on se désintéresse de l'Ukraine, à quel moment est-ce que nous sommes, nous, personnellement en danger, et ça va aller plus vite qu'on ne croit, puisqu'il y a déjà 3 pays limitrophes dont les politiciens ont été nommément fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, évidemment qui ne compte pas puisqu'il vient de la Russie, pays sanctionné, et ça comprend Kaya Kallas, la première ministre estonienne, mais ça comprend aussi François Hollande. Donc, ça veut dire à la Russie, c'est le jour où j'arrive, vous allez au goulag. Pour les Estoniens, c'est comme ça que c'est vécu. Alors, pour François Hollande, je ne pense pas que ça va lui arriver, mais il faut bien se rendre compte que, contrairement à ce qu'on croit, la Russie est extraordinairement agressive à l'égard de pays qui sont membres de l'Union européenne, pas seulement membres de l'OTAN, et donc aussi même à l'égard de politiciens français. Et il faut entendre Medvedev, l'ancien président quand Poutine a eu besoin d'être remplacé 5 minutes, et ce qu'il dit sur le président de la République. Je ne crois pas qu'on se rend compte de la violence des promesses russes qu'il faut croire.
Ils avaient notamment aussi pris une carte de France en pointant Marseille, Lyon et Paris, je crois, en imaginant des actions.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On est ce soir en compagnie de Stéphane Zumsteck, directeur du département opinion et politique d'Ipsos, François Miguet, grand reporter au service économie du Point, et Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste à Paris, en France, pour le média britannique Télégraphe. Entre autres, 2023, on le sait, on l'a répété, a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. 2024, d'ailleurs, s'annonce à peu près du même acabit. Et les citoyens européens dans tout ça. C'est une étude CSA passionnante pour la Fondation Jean Jaurès et l'entreprise Engie, réalisée dans 10 pays. De l'UE principalement, mais les Britanniques y sont aussi, chère Anne-Elisabeth Moutet. Alors, sont-ils prêts à agir ? 89% des Européens veulent que la transition énergétique progresse. 6% seulement envisagent de revenir en arrière. Mais, s'ils veulent que ça progresse, 45%, et j'arrête là avec les chiffres pour l'instant, veulent le faire prudemment. Qu'est-ce que ça vous inspire, le sondeur d'abord, cette espèce de décalage? Alors, on va peut-être regarder aussi les Français, puisque là aussi, ça va en surprendre certains. Ils apparaissent comme les plus informés, les plus volontaires, les plus actifs sur cette transition, mais ils sont aussi les plus inquiets sur ce que ça coûte. Et là, on se fracasse à nouveau. L'idée se fracasse à nouveau, pour reprendre votre expression, sur le pouvoir d'achat.
Oui, vous avez raison. Les Français sont ceux qui en savent le plus, en font le plus, dans les petits gestes, et qui en veulent le plus. Ça, c'est une réalité. Et les Français ne sont pas les mauvais élèves de la transition énergétique. Ce serait une erreur de croire ça. Ça reste un sujet de préoccupation important.
C'est une idée assez solidement installée, pourtant. C'est
oui, mais le contexte économique a totalement changé. Revenons 5 ans en arrière, pas forcément à cause des élections, des dernières élections européennes, mais 2018, c'est l'année de la bascule. C'est l'année où, de plus en plus, on va parler d'événements climatiques, graves. Des sécheresses, des inondations, des pics de pollution extrêmement élevés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a les marches pour le climat. Et à ce moment-là que la transition écologique va devenir une priorité. Alors, pour les Français, en tout cas pour une partie des Français, les jeunes, les écologistes, fort logiquement, les urbains, les CSP+, pour faire simple. Et au début, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas d'opposition à ces aspirations écologiques et à cette volonté de lutter contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire que soit on est pour des efforts, on est conscient de ça, soit, je pense notamment à la droite, au parti de droite, Rassemblement National et les Républicains, qui ne vont rien dire. C'est, on en fait une préoccupation ou ça ne nous intéresse pas. Mais au fur et à mesure...
On conteste la réalité scientifique.
On commence à la contester dans les années qui suivent. Alors évidemment, vous en parliez à cause du pouvoir d'achat, à cause de l'économie, et vont commencer à se développer les termes d'écologie contraignante, voire d'écologie punitive. Mm. Et aujourd'hui, les questions de réchauffement climatique sont devenues clivantes en France. Ce n'était pas le cas, j'insiste, il y a 5 ans. On était conscient du problème ou on ne s'y intéressait pas. Aujourd'hui, on pense qu'on n'en fait pas assez, ou alors on pense qu'on va beaucoup trop loin. Il suffit de voir les discours de Marine Le Pen sur les questions écologiques. Il suffit de se rappeler de la crise des gilets jaunes et des raisons pour lesquelles elle a explosé. Il suffit de se souvenir des contestations autour des 80 km/h. Aujourd'hui, il y a toute une part des Français qui ne sont pas climato-sceptiques, mais qui considèrent que les efforts qu'on leur demande vont trop vite, sont trop brutaux. On parlait toujours de prudence. Bien sûr, la transition écologique est un sujet très important. Ce n'est pas forcément la priorité des priorités aujourd'hui. C'est ça fondamentalement qui a changé en quelques années en France. C'est ça aussi qui a changé dans d'autres pays comme l'Allemagne. Et c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui les formations politiques écologistes, là où elles existent, là où elles sont assez puissantes, la France, l'Allemagne et d'autres pays d'Europe du Nord, eh bien, sont en recul dans les différentes enquêtes, dans les intentions de vote, et que probablement le groupe vert au Parlement européen à l'issue des prochaines élections sera significativement moins important que le groupe actuel, parce que pour toute une partie des Européens, les choses vont trop vite, pas trop loin. Il faudra aller aussi loin qu'on le dit, mais ça va trop vite. Et reprenons le verbe qu'on a utilisé plusieurs fois ce soir. Oui, il y a l'exigence écologique qui se fracasse contre quelque chose sur un principe de réalité. Les gens ne sont pas prêts à payer, ou en tout cas à payer cher. Aujourd'hui, les véhicules électriques, tout le monde trouve que c'est une bonne idée, mais quand on interroge les Français sur les ZFE, les zones à faible émission, il y a toute une partie des Français qui disent « Mais au nom de quoi on interdirait à des voitures thermiques vieilles d'accéder à des centres-villes. Il y a un côté punitif qui se distille de plus
en
plus dans l'électorat.
Au nom de la transition écologique ou énergétique, en tout cas, qui défendent par ailleurs.
C'est mais une partie des Français considère que ça va trop vite, voire que c'est injuste.
Alors, en Angleterre, les Britanniques, Anne-Elisabeth Moutet, de manière assez paradoxale, sont à la fois les plus nombreux à ne pas savoir ce qu'est la transition énergétique, je reprends l'étude, hein, je poursuis, et à souhaiter aller plus loin. Contrairement aux Français qui maîtrisent bien l'exercice, mais ont peur. Là, les Anglais, c'est un peu l'inverse. Ça résonne, ça sonne juste pour vous, dans ce que vous en connaissez.
Alors, pas entièrement. Je pense qu'il y a évidemment, on se sent très concerné par le réchauffement climatique. Il n'y a pas vraiment de gens qui le nient. En revanche, alors qu'il y en avait il y a une dizaine d'années, même des personnalités connues, elles sont relativement disparues du paysage. Mais on voit bien que des élections qui étaient données comme absolument gagnantes pour les travaillistes qu'on le vend en poupe historiquement, ont été perdues sur des histoires de zones à faible émission à Londres, par exemple, dans une partielle récente. Et que les décisions qui sont prises et qui sont contraignantes, c'est exactement la même problématique qu'expliquait Stéphane Zumstag, c'est-à-dire la notion qu'on a l'impression à la fois qu'on contraint les gens, ce qu'ils n'apprécient pas, et que quand on sait par ailleurs que la Chine a un programme de 10 ans dans lequel elle va construire 1000 centrales à charbon, on se dit mais à quoi est-ce que ça sert de faire quelque chose dans l'épaisseur du trait si ce n'est d'expliquer à quel point nous sommes vertueux. Et c'est là où là ça se passe. Alors encore une fois, question électoralement, ça va être à la marge parce qu'en Grande-Bretagne on s'annonce vers un raz-de-marée travailliste qui ne peut pas, à mon avis, pas arriver après 15 ans de conservateur, mais ça va, à mon avis, reformer une partie de l'expression politique, et tout ceci dans les partis populistes se rajoute en disant nous avons des élites, les CSP+, comme vous disiez, qui sont aisés, qui n'ont pas les mêmes problèmes, qui sont dans des endroits où il y a des bons transports en commun, et ils nous demandent à nous qui habitons dans des petites maisons pas très bien construites de faire des efforts disproportionnés, de dépenser la moitié de notre revenu dans des choses dont nous ne pensons pas que c'est très important, et qu'il y a d'autres choses à faire pour sauver la planète. Je crois que on est en malaxage, dirais, de la soupe, et qu'elle n'est pas terminée, et que ce sera beaucoup plus violent encore.
Au-delà du contexte économique, du pouvoir d'achat, de l'inquiétude sur l'emploi, sur l'inflation, etc., est-ce que vous y voyez, vous, un échec à minima en termes de pédagogie de la part des différents partis politiques, évidemment écologistes, un peu partout en Europe, hein, pas que en France. Est-ce que c'est ça ? Parce qu'effectivement, revenir toujours au fait que les Chinois, eux aussi, etc. Enfin, il y a tout un argumentaire qui ne va jamais très loin pour continuer à défendre cette transition énergétique. Et à chaque fois, on en revient. Hein, ça commence à bien faire. Enfin, vous voyez, comment vous politiquement, c'est l'échec de qui en fait ? Ça.
Enfin, vous parlez de la pédagogie, d'accord, mais ce qui compte, c'est vraiment le réel, ce sont les chiffres. Historiquement, dans les précédentes révolutions économiques, souvenez-vous, en général, on avait des technologies qui allaient être de moins en moins chères. L'ordinateur, c'est la loi de Moore, tous les 2 ans, ça divisait de prix par 2. Voilà. Là, on est sur une transition qui est, de l'avis de nombreux économistes, potentiellement très inflationniste. On voit bien que les voitures ultra-modernes, électriques, qui sont certainement super, coûtent quand même beaucoup, beaucoup plus cher que les voitures thermiques traditionnelles, même avec des aides d'État, qui d'ailleurs coûtent extrêmement cher, elles-mêmes dans un contexte budgétaire, on en a parlé un petit peu, qui est très contraint, pas qu'en France d'ailleurs. Donc ça, les Français le voient bien, ça mord, hein, le pouvoir d'achat reste ce qu'il est, contraint. Et donc ça, c'est quand même, on peut faire toute la pédagogie qu'on veut, c'est assez compliqué
de
dire aux gens
qui
vont payer plus cher pour leur voiture,
ouais,
plus cher pour leur énergie, plus cher pour beaucoup de choses. Hein.
On a tous entendu depuis 20 ans des scientifiques qui disaient ça va être difficile, mais il faut agir tout de suite. C'est là où je parle de déficit de pédagogie, pour pas dire plus que ça.
Mais c'est bien ce que montre, je crois, le sondage de CSA, c'est qu'on voit bien que les Français ont compris l'enjeu, ont compris l'urgence. Ils ont fait leur travail plus que les Anglais, puisqu'à 96% ils disent de savoir exactement de quoi on parle quand on parle de transition énergétique. Les Anglais seulement 57%. Mais en même temps, ils sont aussi conscients de l'effort qu'il leur a demandé, qui est un effort réel sur leur pourvoir d'achat. Et puis, ils sont peut-être aussi conscients d'un certain nombre de choses, notamment que tout ne se joue pas dans leur pays. C'est-à-dire que récemment, au point, on est allé en Inde. Si vous voyez le nombre de centrales à charbon qui ouvrent chaque jour dans ce pays, malgré la communication flamboyante du gouvernement Modi qui dit que tout va devenir vert, c'est très désespérant quand on est européen. Peut-être les Français savent aussi que les Chinois, même s'ils développent les meilleures voitures électriques mondiales aujourd'hui parce qu'ils ont été très intelligents et ils ont réussi à mettre en dynamique toute la chaîne de production. Quand on contrôle à la fois les mines et les usines et l'acier, bah évidemment, on peut faire des modèles moins chers. Mais pendant ce temps-là, quand même, ils continuent à polluer énormément. Donc, c'est toujours la difficulté. Et puis, il y a quand même, politiquement, encore le spectre des gilets jaunes. Souvenez-vous, une mesure mal comprise et pas mal vendue. La pédagogie, elle a été faite. Les ministres, on les a vus défiler sur vos plateaux pour la vendre. Mais les Français, en tout cas une bonne partie des Français, n'en voulaient pas.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Stéphane Zumsteck d'Ipsos, François Miguet du Point, Elisabeth Moutet du Télégraphe. Encore quelques mots là sur les suites de cette étude sur la transition énergétique telle qu'elle est perçue par les Européens. Si on se penche sur le scrutin du 9 juin, 53% des Européens estiment que la transition énergétique est un argument important, mais pas capital dans le choix de vote. Il y a finalement aucun. Est-ce que ça veut dire qu'aucun parti trouve grâce à leurs yeux sur ces sujets-là? Alors, personne n'est juste.
Quand vous dites que c'est un sujet, quand les Français ou les autres citoyens européens qui ont participé à cette enquête répondent que c'est un sujet important mais pas prioritaire, ça veut dire, je force presque le trait, que c'est devenu un sujet secondaire. On voit bien le principe de réchauffement climatique et transition écologique est totalement acté, bien sûr, mais on le voit bien aujourd'hui. La classe politique, alors européenne et ou française, comme vous voulez, selon le niveau auquel on se situe dans l'analyse, a échoué à faire prendre conscience à leur électorat, en tout cas, de l'urgence climatique. C'est une réalité. Il n'y a que les militants, sympathisants et électeurs des écologistes qui, eux, évidemment, ont cet objectif chevillé au corps. Les autres, non. Et tout cela s'explique par quelque chose qui aurait pu être, a priori, une bonne nouvelle, c'est que tous les partis politiques se sont, ces dernières années, saisis de l'enjeu écologique, parce qu'il fallait bien aussi muscler leur programme dans ce domaine. Mais finalement, ça n'a jamais été présenté autrement que comme un domaine parmi d'autres. Ça peut être la dette, ça peut être ça, ça peut être l'Ukraine. Mais voilà, il y avait la transition écologique et ça faisait bien. Et il fallait absolument, il devenait indispensable, notamment pour récupérer l'électorat jeune et souvent abstentionniste, parler de transition écologique. Mais il n'y a jamais eu véritablement un discours volontaire. À l'exception, évidemment, j'insiste, des partis écologistes en Europe.
Il y a pourtant eu une tentative de secrétariat à Matignon.
Oui, mais là encore, avec un double ministère, personne n'a compris à l'époque. Enfin, c'est tout ça.
Secrétariat général à la transition écologique, censé être transversal.
Mais c'est aussi un président de la République qui a dit que ce quinquennat serait écologique ou ne serait pas. Et bon, il n'y a pas eu de grands mouvements, de grandes remises en cause de ce qui se faisait, de ce qui devait changer. Donc, la classe politique est en partie, je pense, responsable. C'est toujours un peu facile de taper sur les politiques, évidemment. Mais là encore, l'écologie, c'est quand même très souvent un argument. Et puis, j'ajoute une chose. Durant la conférence de presse du président de la République au début de l'année, on avait l'impression d'entendre Nicolas Sarkozy quelques années auparavant avec, rappelez-vous, du fameux « l'écologie, ça commence à bien faire ». Je crois que c'était ces termes-là. Et c'était un petit peu les propos, en tout cas le ton du président de la République. Maintenant, s'il faut relier ça à ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien concrètement, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, c'est-à-dire dans les pays où les écologistes existent, où l'électorat a une composante écologiste importante, France, Allemagne, Europe du Nord, Pays-Bas, Benelux, eh bien, dans ces pays-là, on le voit bien, la préoccupation, et c'est ce que cette enquête que vous citiez montre, la préoccupation du réchauffement, de la transition écologique, elle est importante, elle n'est pas prioritaire. Résultat, vous avez une traduction concrète dans les enquêtes d'opinion. Je rappelle qu'il y a 5 ans, la liste de Yannick Jadot obtient, divine surprise pour les écologistes, 13,5% des voix.
Avec une remontée sur la fin, est-ce qu'on peut
avec une remontée sur la fin
aussi?
J'ai du mal à imaginer que on est à 2 mois du scrutin, compte tenu aussi de la concurrence à gauche, de la dynamique électorale dont bénéficie pour l'instant la liste de Raphaël Glucksmann, j'ai du mal à imaginer que les écologistes puissent sensiblement redresser la barre. Mmh. Mais on le voit bien, je le disais tout à l'heure, la transition écologique, c'était la priorité des priorités de la jeunesse et d'une partie importante des Français, notamment de gauche, notamment les urbains, notamment les gens ayant un niveau d'instruction élevé il y a 5 ans, ce n'est plus la principale préoccupation. Mmh. on ne parlait que de ça dans certains milieux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Yannick Jadot a obtenu 13,5%. Trois ans plus tard, il obtenait moins de 5% à l'élection présidentielle. Je parlais de la responsabilité des partis politiques dans leur ensemble. Les écologistes ont aussi commis un certain nombre d'erreurs tactiques lors de la campagne pour l'élection présidentielle. Rappelez-vous, Yannick Jadot et ses représentants et ses porte-paroles ne cessaient de parler que du nucléaire. Mais on le voit bien, et ça a été quelque part un des mouvements qui ont fait bouger l'opinion. L'opinion publique française ne comprend pas pourquoi on est pour le nucléaire, qu'on est contre le nucléaire, alors même qu'il faudrait fermer des centrales thermiques. Le nucléaire, pour plein de Français, aujourd'hui, c'est redevenu de l'énergie propre. On peut en discuter, ce n'est sans doute pas le cas, mais c'est en tout cas ce que pense une partie des Français, y compris ceux qui sont plutôt favorables à la cause écologiste. Le problème des écologistes, c'est qu'ils n'ont pas réussi à convaincre une partie importante des Français, une partie significative des Français, du bien fondé de leur programme.
Alors, sur la perplexité des Français et des Européens en général, on va écouter quelqu'un qui a aussi un regard, qui va un peu se rapprocher avec ce que vous disiez. C'est Mathieu Ozano qui dirige le think tank de la transition énergétique, le Shift Project.
Si on regarde les enquêtes d'opinion qui sont faites sur la préoccupation des gens vis-à-vis du réchauffement climatique, ça reste très très haut. Maintenant, je pense que nos concitoyens et les citoyens européens de manière générale sont dubitatifs sur la mise en œuvre de la thérapie. On comprend pas très bien où on va. On a beaucoup d'injonctions contradictoires de la part de nos élus. Et du coup, pour moi, c'est assez clair qu'il y a une crainte qu'on se plante dans la manière de mettre en œuvre la thérapie. Donc effectivement, moi je comprends ça comme le besoin de passer sérieusement à la mise en œuvre d'une réorganisation de l'économie, mais qui pour l'instant n'est pas vendue clairement par nos représentants politiques, et du coup, les gens, ils sont dubitatifs, en fait.
Anne-Elisabeth Moutet.
Je dirais qu'il faut se mettre maintenant une réorganisation complète de l'économie en parlant vers plus de transition énergétique. C'est encore plus anxiogène que de dire que la France est en économie de guerre. Et c'est pas dans ce sens-là que ça va bien marcher. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles il y a cette espèce de différence entre la perception de la nécessité d'une transition écologique et un espèce de rejet d'en faire une cause première, elle est due, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Zumsteig, aux écologistes eux-mêmes. Les écologistes sont arrivés au pouvoir dans un certain nombre de métropoles et ils ont pris des décisions qui ont été vécues comme ce qu'on appelle de l'écologie punitive. C'est-à-dire que c'était parcellaire, c'était performatif, ça faisait beaucoup de bruit, ça cassait la vie des gens. On n'est pas du tout sûr que ça change grand-chose à la transition écologique.
Et vous pensez à quoi, là?
On va laisser de côté la gestion de la ville de Paris, mais je vois ce qui s'est passé à Bordeaux, dans la métropole à Grenoble, c'est même en dehors des zones à émissions faibles, qui veut dire en gros que les gens qui habitent plus loin du centre des capitales et qui n'ont pas les moyens de se déplacer sauf qu'en voiture sont pénalisés. Je pense que ça les a rendus impopulaires. Je pense que leurs résultats, les chiffres des sondages, en particulier dans l'élection européenne, qui est malgré tout une élection qui peut servir de sondage grandeur nature puisque c'est proportionnel, montre bien qu'ils ont raté leur image. Et il faut les comparer avec les écologistes allemands qui sont déjà allés au gouvernement, qui sont absolument vus comme un parti de gouvernement, qui sont absolument pas moins engagés vers la transition énergétique, mais qui se sont montrés responsables. Plus toutes les images des groupes d'activistes qui vont jeter de la soupe sur la Joconde, se coller aux autoroutes, etc. Je pense pas du tout que ce soit bien reçu dans un pays où les gens sont déjà angoissés. Ces méthodes sont des méthodes, si je veux parler de manière un peu simple, ce sont des méthodes de gosses gâtés. Et je crois que le rejet est un rejet parce que les méthodes ne sont pas acceptées, que le discours écologiste n'a pas été accepté. Alors, pour ces raisons-là.
Vous parlez de l'Allemagne dans un système politique qui est évidemment totalement différent. On va se pencher dans
le ministre des Affaires étrangères est écolo. Et c'est pas la première fois. Joschka Fischer a été un excellent ministre des Affaires étrangères et il était également écolo.
On est dans un système qui n'est pas identique, avec des coalitions indispensables. Et c'est un peu lié au mode de scrutin. Et ça nous amène à notre troisième partie.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Pardon. Allez, grande discussion déjà. François Miguet, du Point, Stéphane Zumsteig, d'Ipsos, Anne-Elisabeth Moutet, du Télégraphe. Faut-il élire les députés à la proportionnelle? Yael Braun-Pivet a reçu hier et aujourd'hui tous les présidents de groupe à l'Assemblée pour pousser son idée d'instaurer donc une dose de proportionnelle pour un quart des députés, en gros dans les départements les plus peuplés, qui, disons-le, cette idée divise évidemment sa majorité. Voilà comment elle le justifie. C'était le 10 mars dans le Dimanche en politique sur France 3.
Moi, j'y tiens. Je pense que les Français, avec un scrutin, avec une très forte dose de proportionnel, seraient mieux représentés à l'Assemblée nationale. Et puis, vous savez, nous sommes une exception aujourd'hui. Dans les 27 pays européens, nous sommes les seuls à avoir un scrutin strictement majoritaire. Donc avoir une forte dose de proportionnel, 25-30%, nous alignerait avec nos homologues à minima, mais surtout permettrait à tous nos concitoyens d'être mieux représentés à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il s'agit d'une urgence démocratique.
L'urgence, ça veut dire qu'il faut que ce soit en place pour les prochaines législatives de 2027.
Je l'espère, oui.
Voilà, alors... On entend beaucoup parler de cette histoire d'effet édredon, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Traditionnellement, la proportionnelle a pour but de représenter dans l'hémicycle de façon plus exacte l'état d'opinion. Jusque-là, on est d'accord, Stéphane Zumsteg. Il se trouve que sans proportionnelle aux élections de 2022, on a quand même 89 RN, 75 insoumis qui ont été élus. Comme s'il y avait eu une proportionnelle, mais il n'y en avait pas. Comment ça se fait ? Explication. Alors.
D'abord, bon, pour revenir à ce que dit la présidente de l'Assemblée nationale, c'est l'objectif, ça reste de rapprocher les politiques des Français, de faire en sorte que la représentation nationale de ces 577 députés, eh bien, traduise mieux le rapport de force politique.
Proportionnellement. Alors,
proportionnellement. Exactement. Après, il n'y a qu'une seule arme anti-majorité absolue, c'est la proportionnelle intégrale. Si vous avez une proportionnelle intégrale, c'est-à-dire qu'en gros, vous obtenez 20% d'une élection et vous aurez peu ou prou 20% des députés, compte tenu de l'émiettement et de la fracturation de la classe politique, il n'y a plus de majorité absolue possible dans le système de la Ve République. Là, ce que propose la présidente, c'est d'instaurer une dose de proportionnelle. Alors, elle parle d'une dose massive. Non, c'est pas le cas. Ça ne concernerait qu'un quart, 26% pour être exact, des députés. Donc, et vous l'avez dit, dans les quelques départements les plus peuplés, ceux où il y aurait au moins 11 députés. Mais ce n'est pas
Est-ce
ça.
Est-ce que c'est exact ce calcul qu'ils font de dire que ça va étouffer, d'où le mot édredon, d'une certaine façon, les extrêmes, de ne faire qu'un quart des circonscriptions?
Moi, je ne pense pas. Franchement, je ne vois pas ce que ça pourrait changer à un rapport de force. D'abord, je m'étonne du fait, enfin, je ne pense pas qu'ils aient dit qu'on fait ça pour, qu'on est en train de mettre ça pour limiter les extrêmes, parce que quelque part, ça pourrait être quand même pris pour un déni de démocratie. Je ne suis pas un supporter des pays, des partis politiques radicaux, qu'ils soient de gauche ou de droite. Malgré tout, changer la loi en assumant le fait que c'est pour faire barrage à tel ou tel parti me paraîtrait être quand même un déni de démocratie. Maintenant, ce que ça change, vous avez raison de le dire, en 2022, qu'est-ce qui se passe ? Le Rassemblement national ne fait pas campagne, obtient un score de 18% alors que Marine Le Pen a obtenu 6 semaines plus tôt 23%, donc est en recul, et malgré tout, obtient, vous l'avez dit, 89 députés. Qu'est-ce qui a changé ? La vraie raison, c'est que le Front républicain n'existe plus. Qu'est-ce que c'est que le Front républicain pour ceux qui ne le savent pas ? Eh bien, quand vous n'êtes pas un partisan du Rassemblement national, que vous êtes de gauche ou d'un autre parti et que votre candidat est éliminé au premier tour, eh bien, automatiquement, vous votez pour le candidat qui est opposé au Rassemblement national parce que c'est un parti considéré comme d'extrême droite ou qui fait peur. Tout ça a disparu. Mais pour revenir, et c'est ça fondamentalement qui a changé. Et instaurer une dose limitée de proportionnelle à 26%, un quart des députés, ne changerait rien parce que le Rassemblement national est à la fois fort dans les départements où il y aura de la proportionnelle, le Nord, les Bouches-du-Rhône, le Pas-de-Calais, est également fort dans les départements où il y a peu de députés, les confins du bassin parisien, là où il a enregistré beaucoup de gains. Donc moi je doute de l'efficacité politique, du côté tambouille politique de cette réforme.
Alors normalement on regarde les unes, vous avez 15 secondes Anne-Elisabeth Moutet.
Ma seule réflexion c'est je ne peux pas imaginer que Mme Braun et proposer ça sans en avoir parlé au président de la République. Donc quel est le but du président
qui
de la République ?
Qui ne va pas s'y opposer, d'après ce qu'on
sait. Oui, c'est ça. Donc voilà. Bon, donc, alors quel est l'intérêt du président de la République ? Donc c'est une question politique.
Quel est l'intérêt du président de la République ?
Moi, je trouve que c'est ce que Alfred Hitchcock appelait un MacGuffin, c'est-à-dire que c'est quelque chose pour faire diversion. Nicolas Sarkozy l'avait promis, François Hollande l'avait promis, Emmanuel Macron à son tour. On parle des législatives pour 2027. Je suis pas 100% sûr que ça va aboutir. Et surtout, plus important, je pense que les Français, pour eux, c'est pas du tout une priorité. Ça n'intéresse que les élus, ce genre de proposition
priorité,
de réforme institutionnelle.
C'est la une du point de cette semaine.
Alors, oui, la priorité, peut-être, en tout cas, une des priorités, c'est... l'état incroyablement dégradé des finances publiques du pays. Emmanuel Macron, l'homme aux 1000 milliards de dettes, enquête sur un scandale d'État, c'est en une du point cette semaine.
Et le Télégraphe, Anne-Elisabeth Moutet, on vous dit sur quoi ?
C'est la fameuse décision du Conseil européen des droits de l'homme qui veut annuler de fait une votation, c'est-à-dire un référendum suisse qui veut ralentir les politiques pour la transition énergétique.
Merci aussi à Stéphane Zumsteg. Demain, les informations. Mais 9h, Salia Braclia et Jean-Jérôme Bertolus. Nous serons là dès 20h. Bonne soirée.